Chapitre 3. Robert Verdun, le lendemain matin, se demanda, même avant d'ouvrir les yeux, d'où venait l'impression désagréable qui semblait l'avoir oppressé vaguement toute la nuit. C'était un malaise indéfinissable, flottant entre l'inquiétude, la mauvaise humeur et le mal de tête. Il ne put en saisir la cause. Quand il descendit pour déjeuner, il trouva Caroline, son bébé sur les bras, debout au milieu de la cuisine, en face d'une jeune femme qui, elle aussi, portait un enfant. « On m'a assuré, » disait la femme, maigre, pâle, avec des yeux qui brillaient et des cheveux noirs ondulés sur ses tempes creuses, « on m'a assuré qu'il travaille à une route près des Verrières. Je le retrouverai. » « À quoi bon ? » dit Caroline. « Il vous abandonnera de nouveau. »« À quoi bon ? C'est mon mari, voyez » dit-elle en étendant sa main gauche où brillait une mince bague d'or. « Je ne suis pas de celle qu'on laisse dans un coin. Il me reprendra, sinon... » Elle s'interrompit pour approcher des lèvres de l'enfant la tasse de lait que Caroline venait de lui verser. « Mais pour ce petit, c'est cruel, » dit Caroline. « Il mourra de froid. » « Non, je l'enveloppe dans mon châle. Il faut que son père le voie. Merci, je pars. » Robert la suivit jusqu'à la porte et lui mit quelque chose dans la main, sous les plis du châle. « Prenez le train, » lui dit-il à demi-voix. « La gare est à 20 minutes d'ici, en descendant la route. Le train des Verrières passera dans une demi-heure. » Elle inclina la tête et sortit. Robert resta sur le seuil, la regardant s'éloigner. « Je ne sais trop si vous faites là une bonne action, » dit Caroline en venant doucement le pousser de côté pour fermer la porte. « La vengeance peut bien aller à pied, elle arrive toujours assez vite. Le mari de cette femme passera un mauvais quart d'heure. »« Ainsi soit-il, » dit Robert en s'écartant brusquement. Après avoir déjeuné en silence, il monta à la grange où l'on entendait retentir le fléau d'Abdias sur le plancher sonore. Robert prit aussi un fléau et se mit à battre la couche de blé avec autant d'énergie que s'il avait frappé sur les institutions publiques et privées de son siècle. Au bout de 10 minutes, il s'arrêta, le visage ruisselant de sueur. « Quand j'aurai un domaine, moi, dit-il, j'aurai une machine à battre. » « Oui, pour voir votre paille hachée, en petits bouts, comme des allumettes. » Ces inventions qui travaillent toutes seules sont un piège de l'esprit de paresse. Nous avons bien une charrue anglaise parce que Caroline, qui n'y voit goutte, s'est mis dans l'esprit que les charrues, c'est comme des aiguilles et qu'il faut que ça vienne d'Angleterre. Non, je suis, moi, pour les vieilles choses, établies de toute ancienneté, comme la religion. Je suis pour que le progrès nous laisse tranquilles. Une fois dans ma vie, j'ai voté pour un chemin de fer et je m'en suis toujours repenti. Depuis lors, je vote non sur toutes les questions, c'est mon système. Cela simplifie les fonctions d'électeur assurément. Et c'est le plus sûr. Pourquoi déranger l'ordre des choses? Le monde est bien comme il est, à mon avis. Vous n'êtes pas difficile, fit Robert en reprenant brusquement son fléau. Il est bon, humain, civilisé, votre monde. Il partage son pain, n'est-ce pas? Il redresse les torts, il tend la main aux faibles. « Mon avis, » reprit Abdias, « est que chacun trouve le sort qu'il mérite. De sorte que, si vous vous cassiez la jambe en sortant d'ici, vous l'auriez bien mérité. » Abdias haussa les épaules. « Si je me cassais la jambe, » répliqua-t-il, « je serais soigné attentivement par Caroline et je le mériterais parce que je suis un bon mari et un honnête homme. » Robert se mit à rire. « Très bien, cousin Abdias, pour cela je l'admets. » Après tout, vous avez sans doute le droit d'être satisfait du monde et de vous-même. » Puis il soupira et s'approcha de la fenêtre que fermait à demi un grand volet vermoulu. Il y resta longtemps, accoudé sur le rebord de planches poudrées de neige où les pattes des moineaux avaient tracé un fantastique grimoire. « Quel original !» pensait Abdias, « dire qu'il aurait pu être notaire, que son père a du bien et qu'il trouve que le monde va mal. » Enfin, Robert se redressa. « Je vais fumer une cigarette, » dit-il. Et il sortit de la grange. En traversant la cuisine, il vit la porte de la chambre de ménage grande ouverte et Mika, assise derrière sa petite table, les deux mains jointes sur son genou, écoutant le canari qui chantait. Il entra. Des rideaux blancs, un rayon de soleil, un pot de violet fleuri, un oiseau qui chante, il suffit parfois de peu de choses pour asséréner un homme. « Mika, dit Robert, il fait toujours bon où vous êtes. » Elle rougit en détournant son visage. « Il fait bon partout où il y a du soleil, » murmura-t-elle. « Soyez gentil, » reprit Robert, « et venez faire une petite promenade avec moi. J'ai des idées noires, ou peut-être suis-je simplement de mauvaise humeur. » Elle se leva sans répondre, prit dans un tiroir de la commode son châle de laine et son capuchon noir, qui, encadrant ses joues brunes et pâles, donnait à sa petite figure un air presque enfantin, puis elle dit « Je suis prête !» Abdias, de la fenêtre de la grange, les vit s'éloigner ensemble dans la direction des champs. « Mika va joliment s'ennuyer, pensa-t-il, si Robert lui chante le même refrain qu'à moi. « Que la neige est belle, disait Robert, on la trouve monotone dans la plaine, mais ici, au contraire, quelle variété de nuances et d'effets !» Brillante au soleil et toute semée d'étincelles, elle était dans le creux du sentier d'un blanc lourd et mat. À chaque pli du terrain, elle prenait des reflets d'un bleu insaisissable et transparent qui se fondait en lumière, à peine touché par le soleil. Sur les sapins, elle était grise, d'un gris plein de gaieté qui semblait sourire. « C'est un gris qui vous grise, » disait Robert. Sous les arbres, de larges flaques éclatantes semblaient dorées par contraste avec les taches d'ombre et pendues comme des taches d'encre. En quelques endroits, de hautes graminées sèches et jaunies qu'on avait négligé de faucher perçaient la neige de leurs hampes minces qui dessinaient sur le blanc de fines ombres entrecroisées, nettes comme les hachures d'une eau-forte. Les branches des sapins pliant jusqu'à terre, avec leurs rameaux écartés comme des griffes, en mitouflées de neige, ressemblaient à de grosses pattes fourrées d'ours polaires. Et sur toute cette symphonie, de teintes fondantes et de contours estompés, vibrait une atmosphère de cristal. Ce coin de pays me semblait déjà bien charmant en automne, dit Robert, mais je l'aime encore mieux sous la neige. Il a plus de physionomie. Je voudrais y rester toujours. Et que ce fût toujours l'hiver, dit Mika. Ah, cela non, par exemple, cela entraverait mes projets agricoles. Avez-vous vraiment envie de vous faire paysan, cousin Robert? Demanda-t-elle. Et elle ajouta à voix basse, « Ce serait grand dommage. »« Comment donc, petite profane, le travail des champs est le plus noble de tous. Demandez à l'empereur de Chine, demandez à Victor Hugo, demandez à Abdias. Le geste auguste du semeur n'est-il pas plus grandiose que celui de l'horloger poussant sa lime ou du paperassier qui taille une plume? Quant à prétendre que j'ai envie de me faire paysan, il y a là un abus de mots. » Le fait est que je n'ai envie de rien. De rien, dit Mika comme un écho. À quoi bon? Une chose en vaut une autre, un peu plus, un peu moins mauvaise. Tenez, vous, par exemple, assise tout le jour à broder, vous n'êtes pas écœuré de cette monotonie, vous trouvez qu'il vaut la peine de vivre? Oui, répondit-elle simplement. Ils se turent. Au bout d'une minute, Robert reprit. Et quand on aurait soi-même autant de bonheur qu'on en pourrait porter, oserait-on bien être heureux, tout seul, au milieu du monde qui souffre? Cette pauvre femme qui a passé ici tout à l'heure, je la comparais à Caroline, je regardais ses deux petits-enfants, le fils d'un honnête homme et celui d'un vaurien. Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Non, la vie n'est pas bonne, elle est injuste, cruelle, et l'ayant reçue, l'ayant endurée, nous devrions au moins n'en transmettre l'héritage à personne. » Il y eut un nouveau silence. « Que pensez-vous de moi, Mika ? » reprit Robert. « Je pense que vous n'êtes sans doute pas tout à fait guéri, » répondit-elle. Il se mit à rire. « Vous croyez que je délire encore un peu ? C'est possible. Malheureusement, la pharmacie n'y pourra rien. » Ils continuèrent leur route entre la lisière du bois et les champs, jusqu'au sommet d'une pente unie qui descendait, blanche, ensoleillée, vers le gradin inférieur où elle se creusait en un petit vallon. En travers du chemin, un léger traîneau, de ceux qu'on appelle luge, fait de deux planches montées sur des patins de bois, semblait avoir été oublié là par son propriétaire. Il portait deux sacs soigneusement pliés, marqués d'un grand F peint en noir. « Mika, fit Robert subitement, que diriez-vous d'une partie de luge? L'endroit est fait exprès. Voyez-moi cette neige unie et portante. Nous irions comme le vent. » « Si vous en avez envie, dit Mika, qui n'osa achever sa phrase, mais dont le sourire compléta la pensée. « Ah, vous vous moquez de moi, vous en serez puni immédiatement. Asseyez-vous là sur le sac et la cendre de côté comme cela. C'est bien, vos pieds sur le logeon. Moi, je me mets devant. Appuyez votre épaule contre moi. Vous n'avez pas peur, j'espère. » « Un peu, dit-elle, je me suis souvent lugée avec Caroline ou Jenny, mais avec vous ?»« Merci de votre confiance. Mais dépêchons-nous, le propriétaire n'aurait qu'à revenir. Vous y êtes ? Tenez-vous bien. » Un élan, une première glissade, et les voilà partis, filant comme une flèche sur la neige dure. L'air vibrant sifflait autour d'eux, cinglant Robert au visage, fouettant les plis du châle et les bouts flottants du capuchon de Mika, qui, blotti derrière son cousin, frôlant de la joue son épaule, regardait l'ombre du traîneau courir comme affolée à côté d'eux. Il fuyait, et les étincelles du givre, s'allumant et s'éteignant tour à tour, semblaient les poursuivre, et les grands sapins tourbillonnaient, penchés vers eux, étendant leurs grands bras pour les atteindre. Glisser ainsi avec Robert jusqu'au bout du monde, jusqu'à cet extrême bord, au-delà duquel il n'y a plus rien, et puis... Mika poussa un léger cri, la tête lui tournait, le souffle allait lui manquer. Le traîneau s'arrêta subitement au fond du petit vallon, arrêté net par son conducteur qui venait de planter solidement ses deux talons dans la neige. « Eh bien, Mika, que dites-vous de cette glissade? Est-ce que je sais encore guider une luge ?»« Recommençons !» s'écria Mika. Ils gravissaient la pente, s'essoufflant un peu, quand un appel retentissant leur fit lever la tête. Ami Fresnel était assis au bord du chemin, sur son manteau de gros drap, les deux mains encornées devant sa bouche, pour servir de porte-voix. « Bien du plaisir » cria-t-il. « C'est à vous, ce traîneau ?» demanda Robert quand il l'eut reconnu. « À moi-même, et par conséquent, bien au service de Mademoiselle Mika. » « Si nous essayons un coup ensemble, » fit Ami de son ton le plus persuasif en se tournant vers Mika. « Merci, j'en ai assez, » répondit-elle vivement. Puis elle ajouta, sans regarder Robert et avec une rougeur subite, « C'est trop ennuyeux de remonter. Oh, s'il ne tient qu'à ça, je vous voiturerai à la montée comme à la descente, » dit Ami avec empressement. « Non, j'en ai assez, » répéta-t-elle. Le jeune voisin, discernant dans sa voix une légère nuance d'irritation, s'empressa de changer l'entretien. « Je viens de là-haut, dit-il, de chez les Paulins. Leur route est trop mauvaise, c'est pourquoi j'ai laissé le traîneau en bas. La fille se marie demain. »« Oui, je sais, dit Mika d'un ton distrait. On peut dire que c'est la faim qui épouse la soif. Le garçon n'a pas un sou et des dettes. » « Vous leur avez porté de quoi dîner demain, je gage, » dit Mika. « Oh, quelques petites provisions seulement. Anna Paulin est un peu notre cousine. »« Dans ce cas, vous devriez faire opposition à son mariage, » dit Robert. « Je ne comprends pas l'insouciance, la routine, l'égoïsme qui laisse s'accomplir de telles énormités. » Ami ouvrit de grands yeux. « Quand on songe aux conséquences infinies de misère et de malheur qui en découleront, » poursuivit Robert. « Ah, si l'on voulait penser à tout, dit Ami, personne ne se marierait. Pour chacun, les choses peuvent mal tourner. N'empêche que je suis partisan du mariage, moi. Pas vous ?»« Non, répondit Robert en riant, car il commençait à se trouver absurde. « Ni en général, ni en particulier ?»« D'aucune façon. » « Bon, dit Ami, qui se reprit aussitôt. Quand je dis « bon », j'entends que ça m'est parfaitement égal, vous comprenez ? Mika, impatiente, fit quelques pas dans le sentier. « La promenade est-elle déjà finie ?» demanda Robert. « Oui, rentrons, j'ai froid !» Comme le chemin s'élargissait, ils marchèrent côte à côte. Ami Fresnel s'éloignait, tirant son traîneau. Robert et Mika, silencieux, conversaient avec leurs pensées, qui n'avaient rien de particulièrement réjouissant. Le jeune homme sentait revenir ses idées morbides, aggravées de l'inexplicable malaise sous le poids duquel il s'était réveillé le matin. « Incorrigible bavard que je suis, pensait-il, ne puis-je garder pour moi mes théories au lieu d'effaroucher tous ces braves gens, de passer pour un cerveau dérangé et de faire, qui plus est, de la peine à Mika ? Ce qui me pousse, au fond, c'est le désir de la convertir à mes vues. Mais est-il bien désirable qu'elle échange sa paix contre mon amertume ? Si, par sagesse, peut-être aussi par misanthropie, je choisis la solitude pour mon lot, ne puis-je admettre que Mika se fasse notre plan d'existence ? Non, décidément, il ne pouvait l'admettre, car la vue de David Borel, tranquillement installé près de la fenêtre, en face du canari et de la chaise vacante de Mika, lui causa un déplaisir si vif qu'il en resta un moment comme suffoqué. Le cauchemar de la nuit, le réveil morose, l'humeur noire s'expliquaient. Cette obsession importune et vague comme un pressentiment s'appelait David Borel. Que faisait-il là? Il était déjà venu la veille. Robert tourna la tête. La porte se refermait doucement derrière lui. Mika avait disparu sans accorder un mot au visiteur qui, peut-être, ne l'avait pas aperçu. Elle courut à sa chambre, jeta son capuchon sur une chaise et se mit à pleurer sans bruit, sans grand sanglot, comme on pleure quand le cœur rempli depuis longtemps déborde.